23h à Paris, 21h en temps universel.
Antoine Galen.
La Syrie dénonce une escalade après une frappe israélienne près du palais présidentiel de Damas. Une attaque de l'État hébreu, synonyme d'avertissement aux autorités syriennes contre toute atteinte à la minorité druze de Syrie. Et ce, après des affrontements qui ont fait plus de 100 morts. 2 mois que l'aide humanitaire est bloquée aux frontières de Gaza. L'eau est contaminée et les réserves de farine sont vides. Médecins sans frontières dénonce une famine organisée par Israël. Vous l'entendrez. Dans ce journal également, les petits colis venus de Chine sont taxés par les États-Unis depuis ce vendredi. Et puis au Royaume-Uni, les associations LGBT sont en colère car les femmes transgenres ne pourront plus participer aux compétitions de football. Vous avez des titres ? Bienvenue. C'est une frappe très symbolique. Israël a mis ce vendredi matin sa menace à exécution en bombardant les abords du palais présidentiel syrien. Un avertissement de l'État hébreu contre toute atteinte à la minorité druze de Syrie. Et ce, après plusieurs jours de violences confessionnelles entre des groupes armés liés au pouvoir syrien et des combattants druzes. Plus de 100 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des violences qui ont fait réagir. Un des chefs religieux de la communauté druze a accusé le pouvoir du nouveau président syrien de génocide. Alors pourquoi Israël défend les Druzes de Syrie ? Élément de réponse avec Pierre-Olivier.
Trois raisons principales. D'abord, la communauté druze est présente en Israël, une communauté bien intégrée, avec des jeunes souvent enrôlés dans l'armée et qui se sont battus pour Israël, notamment lors de la guerre contre le Hezbollah. L'État israélien répond donc à une demande de ses propres citoyens druzes, qui ont de la sollicitude pour leurs frères de Syrie et souhaitent qu'on leur vienne en aide. Deuxièmement, il y a un aspect stratégique dans l'intervention d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a toujours observé avec méfiance l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara, qu'il considère comme une menace islamiste à ses portes. Pour rappel, Ahmed al-Shara était, avant la chute de Bachar al-Assad, le chef du groupe Hayat Tahrir al-Sham, dont de nombreux combattants étaient des djihadistes. Épauler les druzes syriens est donc pour Israël un moyen de renforcer sa présence dans le sud de la Syrie pour prévenir toute intrusion potentielle sur son territoire. Enfin, c'est aussi un coup plus politique que joue l'État hébreu, divisé pour mieux régner, car en soutenant la communauté druze syrienne, Israël cherche aussi à affaiblir le pouvoir de Damas et in fine à déstabiliser Ahmed al-Shara.
Et après cette frappe, les réactions s'enchaînent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne les violations par Israël de la souveraineté de la Syrie. La présidence syrienne a de son côté évoqué une dangereuse escalade. Israël qui frappe également la bande de Gaza. Au moins 42 morts ce vendredi selon la défense civile palestinienne. Pendant ce temps, l'État hébreu bloque toujours l'aide humanitaire à Gaza. Cela dure depuis 2 mois, jour pour jour. 3000 camions sont bloqués à la frontière, mais les autorités israéliennes leur interdisent l'accès au territoire palestinien. Le commissaire général de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens parle d'un siège. Résultat, les opérations humanitaires sont au bord de l'effondrement total, selon la Croix-Rouge. On écoute l'ancien président de Médecins sans frontières, Ronnie Brumman.
Aujourd'hui, c'est à nouveau l'abomination, l'enfer qui s'abat sur les Palestiniens. Toutes les réserves sont épuisées. On boit de l'eau croupie, de l'eau saumâtre. On ne peut plus s'éclairer parce que les centrales ne sont plus approvisionnées. Il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'aliments de base. Donc, ce que les Gazaouis avaient réussi à stocker un peu, les commerçants ou les particuliers, tout ça arrive maintenant à épuisement. On est dans une situation de famine organisée dans le cadre d'une guerre qui n'a jamais mieux mérité son nom que guerre génocidaire aujourd'hui. Et comme pour rajouter à l'infamie, à l'horreur de cette situation, on voit que les pays occidentaux, en dépit de quelques formulations tout de même critiques qui ont tardé à être entendues, mais enfin qui sont là, comme par exemple la France appelant à arrêter le massacre, en dépit de ces déclarations-là, rien n'est fait concrètement pour que le massacre s'arrête.
Ronnie Brumman, ancien président de Médecins sans frontières, et ce vendredi, des militants de la cause palestinienne qui acheminaient de l'aide vers la bande de Gaza ont vu un de leurs navires attaqué par des drones au large de Malte. Les militants de la flottille de la Liberté ont dit soupçonner Israël d'être à l'origine de cette attaque qui n'a pas fait de blessés. Aucune réaction de l'État hébreu pour le moment. Priorité, austérité. Le président américain Donald Trump a présenté un projet de budget pour 2026. Au programme, un projet ultra-conservateur qui taille massivement dans les aides internationales ou les subventions jugées woke. Et au contraire, plus d'investissements dans la défense ainsi que la sécurité intérieure. La Maison-Blanche a également annoncé un défilé militaire le 14 juin prochain. Une date qui n'est pas choisie au hasard car il s'agit de l'anniversaire de Donald Trump. Lui promet la plus grande transformation de l'économie canadienne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, va rencontrer Donald Trump ce mardi. Première rencontre avec son homologue américain depuis sa victoire aux élections législatives lundi. Une visite dans un contexte tendu car les deux alliés historiques sont en froid face aux droits de douane et aux menaces d'annexion du président américain. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, tous les colis venant de Chine sont visés par des droits de douane punitifs aux États-Unis. Concrètement, les vêtements, gadgets ou cosmétiques achetés sur Temu, Chine ou AliExpress sont désormais taxés dès le premier dollar avec des droits pouvant atteindre 90%. L'Union européenne pourrait suivre. Bruxelles envisage la fin de l'exonération pour les colis de moins de 150 euros d'ici 2028. Les précisions de Cléa Broadhurst à Pékin.
En 2024, plus de 4 milliards 6 millions de paquets sont arrivés en Europe, 3 fois plus qu'en 2022. 9 sur 10 proviennent de plateformes chinoises comme Temu, Shein ou AliExpress. Côté américain, la tendance est tout aussi marquée. En 2024, les États-Unis ont reçu environ 1 milliard 300 millions de petits colis venus de l'étranger, dont près de la moitié depuis la Chine. Ces envois, généralement de faible valeur, pèsent lourd. Plus de 66 milliards de dollars d'importation, dont 46 milliards pour les seuls paquets chinois. À eux seuls, Shein et Temu envoient jusqu'à 1 million de colis par jour vers les États-Unis. Conséquence, un manque à gagner massif pour les entreprises locales. 12 milliards d'euros de pertes dans l'habillement, 3 milliards dans les cosmétiques, 1 milliard dans les jouets. Au premier trimestre 2025, les exportations vers les États-Unis ont chuté de 65%. Pour compenser les nouvelles taxes, Shein et Temu ont fortement augmenté leurs prix, parfois jusqu'à plus 377%, ce qui a fait chuter la demande. Leurs revenus sont en baisse, leur modèle économique fragilisé, et Shein envisage de restructurer ses activités américaines. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Une autre plateforme chinoise, il s'agit de TikTok. Eh bien, ce vendredi, le réseau social a été condamné à une amende de 530 millions d'euros par l'Union européenne. En cause, TikTok n'a pas garanti une protection suffisante des données personnelles des Européens en Chine, des données dont les autorités chinoises pourraient avoir accès. Et TikTok reconnaît avoir hébergé en Chine des données européennes, mais annonce vouloir faire appel. Les femmes transgenres ne pourront plus participer aux compétitions de football en Angleterre et en Écosse. C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi les deux fédérations. Les instances britanniques de foot avaient pourtant assuré récemment que les femmes transgenres pouvaient jouer. Mais la Cour suprême a décidé le mois dernier de définir légalement une femme par son sexe biologique. Des associations faisaient pression pour exclure les femmes transgenres des compétitions. Julien Chavanne.
Elles ne sont qu'une trentaine à disputer des compétitions au niveau amateur, mais pour Fiona McAnena de l'association Sex Matters, les femmes transgenres poseraient problème.
Le football est un sport de contact et jouer contre quelqu'un de beaucoup plus fort et rapide que soi, c'est très difficile. Il y a aussi le problème des blessures, car encore une fois, une grande disparité entre les joueuses représente un risque.
Une vision stéréotypée et non vérifiable, car ce n'est pas du tout ce qu'a vécu Amelia Snowden. Cette femme transgenre de 44 ans joue dans une équipe féminine de foot de l'Essex dans le nord-est de Londres.
Quand j'ai rejoint une équipe féminine, je leur ai demandé « Est-ce que je peux être ici ?» et elles me répondaient toujours « Ne sois pas ridicule, tu es l'une des nôtres, tu es une femme comme nous. »
Si dans sa vie quotidienne, Amelia ne se sent pas menacée, le climat général est en train de changer.
La première chose que je ressens, c'est de la déception et je suis assez blessée aussi. Ça a clairement changé la donne et l'opinion des gens. Je pense qu'il y a davantage de suspicion.
Les fédérations de foot proposent désormais aux joueuses transgenres de jouer entre elles. Amelia, elle, ne lâchera pas le ballon ni son équipe. Elle continuera à jouer avec elle sans participer aux compétitions.
Les 14 associations LGBT ont écrit au Premier ministre Keir Starmer pour lui demander une réunion sur les droits des personnes transgenres. Et puis, en France, le meurtrier d'Aboubacar Cissé a agi dans un contexte isolé, guidé par une envie obsessionnelle de tuer. C'est ce qu'indique ce vendredi la procureure du Parti parquet de Nîmes lors de sa première conférence de presse sur ce dossier sensible. Il y a une semaine, le jeune Malien est décédé après avoir reçu des coups de couteau dans une mosquée du Gard, département du sud de la France. La magistrate a insisté qu'à ce stade, le parquet national antiterroriste n'a pas retenu la qualification terroriste. Les avocats de la famille Cissé ont pourtant annoncé leur intention de déposer une plainte pour que l'enquête soit requalifiée en assassinat terroriste. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.